Parce que, en fait, la Banque de France, sa principale activité, l'échange, en fait, des lettres de change, soit directement auprès des négociants, soit auprès des banquiers. Et donc, les fonds de lettres de change imposent, en fait, pour la banque de connaître la qualité des signatures qui sont présentes sur une lettre de change. Donc, sur une lettre de change, on trouve en fait trois types de signatures. Donc le donneur d'ordre, donc dans le cas présent, c'est la manufacture des draps à fin d'avril, qui s'engage à payer donc aux négociants de Laine, Grandin, Carsenac et compagnie la somme de 3000 francs. Et ils donnent l'ordre en fait à leur banquier, le banquier doyen et compagnie à Paris, donc de payer cette somme. Donc la manufacture des draps à fin d'avril, c'est appelé en fait le tireur. Le doyen et compagnie, ce sont ce qu'on appelle le tiré ou l'accepteur. Et celui qui reçoit la traite, c'est Grandin Carsenac. Dans le cadre de cette traite-là, qui provient en fait du portefeuille des fonds de la banque, on a une troisième signature qui est Grandin Frère, qui est, ou sur laquelle il est noté bon pour 3000 francs. En fait, il est probable en fait que la manufacture des draps fins d'avril n'est pas une note assez une qualité de signature assez importante pour que ça soit accepté, et elle a fait en fait rehausser la qualité de la traite par Grandin Frère. C'est-à-dire en fait toutes les personnes qui s'engagent, on peut faire signer une traite par autant de négociants qu'on veut s'ils s'engagent en fait à payer la somme en cas de si le principal en fait ne la paye pas. Pour qu'une traite soit acceptée à l'escompte par la Banque de France, il faut qu'elle ait au moins trois signatures l'une de bonne qualité. C'est pour ça en fait il y a eu cette signature Grandin Frère de rajouter, parce que sinon elle n'aurait pas été acceptée. Au début, donc il faut pour la Banque de France en fait concentrer, rassembler un certain nombre d'informations sur les maisons de commerce dont elle peut escompter les prêts. Donc au début, ces renseignements sont purement éditaires. Littéraux. J'ai trouvé une lettre en fait, qui accompagne une remise d'une maison rennoise choisie et félise, qui en fait décrit toutes les traites qu'elle envoie. Les négociants choisis et félises m'ont dit: je m'empresse de vous donner quelques renseignements. Donc messieurs Guignon et compagnie ont la plus forte maison de commerce de vin de la Champagne avec l'étranger. Donc il n'y a qu'ils ne connaissent pas Rossel Frère la traiteur, mais qu'on leur dit du bien. Et il précise également donc, que les confectionnaires de la traite sont des actionnaires de la Caisse des comptes, et il précise aussi qu'on peut avoir des renseignements sur eux-mêmes, soit auprès de maisons parisiennes, donc Finot et Charlemagne, une filiale du groupe Opar, et Gramaniac, qui elle appartient à la région de la banque Varion. Donc, en décembre 1801, il y a un régent, le régent Thibon, celui qui va s'occuper de la classification des crédits pendant toute la période napoléonienne, qui demande en fait d'ouvrir un registre secret dans lequel on va noter toutes ces informations. Donc, le registre n'a pas été retrouvé. Il faut savoir en fait que la Banque de France n'a pas gardé les renseignements économiques en fait. Dans la politique d'archives, ils ont gardé au début du 19e les factures, les documents comptables. Mais les registres de renseignements n'ont pas été gardés. Les seuls qu'on ait retrouvés, c'est plutôt par accident que par volonté de les garder. La grande date, en fait, le grand changement de cette méthode de classification, c'est la fusion de la Caisse des comptes de commerce. Parce que, donc, à l'époque, jusqu'à la fusion, en fait, la banque est c'est une sorte de club d'escompte entre banquiers. Elles font souvent surtout les traites auprès des banquiers qui sont ses actionnaires. Et la Caisse des comptes, elle, escompte aux négociants. Donc il y a une différence de clientèle. Et la Caisse des comptes, en fait, fait de la résistance au moment de la discussion de la loi d'avril 1803. et elle indique en fait à Napoléon et au ministre que la banque en fait ne connaît pas de négoce. Et notamment, j'ai trouvé une lettre du mois 40 qui indique si une banque reçoit donc investissement tous les papiers présentés, elle n'admettra qu'elles sont que le mieux famé, elle connaîtra tous les papiers de banque, elle ne peut connaître que le premier de chaque classe. Quelquefois le porteur, rarement le confectionnaire, jamais le manufacturier du département qui vont acheter à Paris. Donc déjà, dans le langage de la Caisse des comptes, on parle de premier de chaque classe. Et c'est là en fait que naît la classification des crédits, puisque la loi de 1803 oblige la Banque de France, après la fusion, à rédiger un état général divisé par classe de tous ceux qui seront dans le cas d'être admis à des comptes et de faire progressivement dans cet état les changements qui seront nécessaires. Cet état servira de base aux opérations des comptes. Donc la loi, en fait, la Caisse des comptes du commerce a été entendue par le pouvoir napoléonien. La Banque de France va devoir classer toutes les maisons de commerce. Donc au début, les raisons de la Banque de France traînent un peu les pieds. Bon, il s'écoule de 6 mois en fait avant que le sujet entre en débat au Conseil Général de la Banque. Et en novembre 1803, il décide en fait de se lancer dans la rédaction du registre. Et ils achètent pour ça l'almanach du commerce. C'est l'almanach de Duvernet et Latina, qui va servir de base en fait à tous les travaux de classification pour l'intérieur. Donc au début, ils vont classer ceux qui présentent à l'escompte, donc ceux qui et progressivement, en fait, ils vont s'apercevoir de l'intérêt de classer un éventail plus large. Donc ils vont classer les présentateurs à l'escompte, les actionnaires de la banque, les actionnaires de la Caisse des comptes, puisque la Caisse des comptes du commerce en fait escomptée à ses actionnaires. Et progressivement, ils vont étendre en fait la classification au comptoir commercial, qui lui est une banque destinée plutôt aux artisans et aux petits commerçants. Et pour terminer, à l'ensemble en fait des négociants parisiens. Donc on dispose en fait en 1804 à une classification de l'ensemble du commerce. On a retrouvé dans les archives de la banque un document de travail en fait de cette époque qui est un almanach du commerce annoté. Il est en cours d'étude, où en fait on trouve en face de chaque nom une note numérique qui indique en fait le crédit à accorder aux négociants. À l'époque, donc les entreprises sont cotées de 0 à 4, donc 0 inconnu, jusqu'à 4 premiers crédits. On a vu en fait que la loi indiquait que c'était la base des opérations des comptes. En fait, ça sert à attribuer les sommes à des comptes, puisque la banque utilise un système qui est basé sur la précision du nombre d'actions. Donc, un comptateur inconnu aura le droit à une fois dans son capital. S'il n'est pas actionnaire, on considérera qu'il est détenteur de 3 actions, c'est-à-dire qu'on lui donne l'équivalent de 3000 francs. Jusqu'à premier crédit, lui, on lui octroie 3 fois en fait le montant de ses actions. Donc la banque a aussi eu recours à la chambre de commerce pour avoir des renseignements, puisqu'en mars 1804, en fait, elle reçoit de la chambre de commerce la liste des négociants distingués, désignés par les maires de chaque arrondissement pour une mission de contrôle qui n'a pas eu lieu. Ce courrier de la chambre n'a pas été retrouvé dans les archives de la banque et ni dans les archives de la chambre. On ne sait pas ce que c'était, mais on voit quand même que la Banque de France avait des sources à diversifier ses sources d'informations. Je vous ferai grâce en fait des différents travaux en commission. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire le document. Parce qu'en fait, c'est plus la répartition en fait des. Ils se répartissent en fait par commission les professions à classer. Il y a quelques ratés, la méthode va un peu s'améliorer. Donc la première révision a lieu en 1805, un an plus tard. Il n'y a pas, ça se passe à peu près normalement. Le premier changement intervient en 1807, où en fait ils décident d'inverser les notations pour qu'elles soient plus logiques. Puisque avant, le premier crédit était noté 4 et on allait en ordre décroissant. On est censé qu'ils disent qu'en fait, il faut mieux noter le premier crédit 1. Et en fait, plus la signature est basse, plus le chiffre est élevé. Parallèlement à la classification de Paris, ils vont se lancer sur la classification des départements. Donc la Banque de France, à l'époque c'est l'étendue de la France, en fait c'est l'Empire de 1810, mais donc au début la France s'étend de la Belgique jusqu'à la plaine du Pô. La Banque de France s'est dès le début, en fait dès ses premières années, implantée dans 250 villes de France et d'Europe par le biais des correspondants. Le correspondant de la Banque de France prend le temps d'être une institution parce qu'on le trouve dans l'almanach du commerce. Si on prend une ville au hasard, on regarde la liste des négociants et on trouvera le correspondant de la banque. Par exemple, à Nice, c'est Vincent de Villers et compagnie, à Lyon, au Guifray, à Rouen, la banque Le Couteux. Et la banque va demander à ses différents correspondants, en fait, d'envoyer des renseignements et de noter la qualité des signatures de toutes leurs maisons de commerce de leur ressort. Il y en a à peu près un par département. Dans les gros départements, en fait, il y en a peut-être deux. Et la Banque de France va disposer, en fait, de ce qu'elle appelle les listes des départements, qui sont, en fait, l'équivalent départemental de la classification parisienne. Comme la classification de Paris, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai retrouvé en fait qu'un extrait qui concerne la classification de Rouen de 1808. En 1808, Napoléon décide de créer en fait les comptoirs d'escompte et la banque va ouvrir en fait le comptoir à Rouen et le comptoir à Lyon. Et pour choisir les administrateurs du comptoir de Rouen, le gouverneur Jaubert va demander un extrait de la classification de Rouen pour les premières cotes de crédit. Les codes 1, 2 et 3. On y trouve 88 négociants.